Jacques Litourneau est avec moi pour parler de comment on dit ça, colocatérisation. Non, comment, si on voulait faire un mot avec ça, ça serait quoi?
Ben, je sais pas, colocataire, cohabitation.
Oui, c'est ça. Alors, on va nous parler de cohabitation en logement, en pleine crise de logement. Je sais qu'on a parlé beaucoup de logement cette semaine, mais je trouvais ça intéressant de voir, parce que déjà dans d'autres États, probablement d'autres pays, mais tu sais, je pense à d'autres provinces, devrais-je dire, je pense à des gens à Vancouver ou à Toronto qui, depuis longtemps, sont obligés d'avoir des colocs parce que sans ça, ils sont incapables de se loger.
Exact, exact.
Mais je pensais pas qu'on arriverait là ici.
Oui, puis on en a parlé cette semaine, notamment de la problématique des logements, notamment dans les villes champêtres, n'est-ce pas, où je te racontais qu'il y a des travailleurs qui sont obligés de se mettre à deux toits pour louer un logement pour être capable de travailler. Ben, c'est un prof qui enseigne en droit du logement ce matin dans Le Devoir qui expliquait que, dans le fond, il n'y a pas de statut juridique clair au statut des gens qui cohabitent. Des fois, on va parler de locataire, sous-locataire, colocataire, chambreur, emprunteur. Mm-hmm. Et là, à un moment donné, ça devient difficile de cibler clairement à qui appartient le logement. Tu sais, nous, quand on était colocataire, puis tu dis, il y a quelqu'un qui signait le bail, puis on se mettait 3-4 dans le logement, n'est-ce pas?
Ouais.
Puis là, s'il y en a un qui partait, ben on en trouvait un autre ailleurs, alors que maintenant, tu peux plus vraiment faire ça. Là. Quand tu vis, toi, dans un logement, ça se peut que tu sois pogné pendant 6 mois, pendant un an, dans le logement. Et ce que le prof raconte, c'est que ça pose des problèmes de statut juridique. Comme le statut n'est pas clair, ben on se retrouve soit à régie du logement ou ailleurs, puis là, on ne sait pas trop comment statuer sur le conflit entre deux locataires. Non, c'est mon logement, non, c'est pas le tien. Moi, je peux rester, je te paye une chambre. On avait un engagement verbal. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il va falloir absolument que le gouvernement du Québec règle ça en incluant des balises à la cohabitation, à même le Code civil. Alors, c'est quand même incroyable. Moi, quand j'ai lu ça matin, je me suis dit, voyons donc. T'sais. Quand on était colocataire à l'époque, on réglait ça simplement, alors que maintenant, il y a effectivement des problèmes. Et le prof va jusqu'à dire qu'il y a des problèmes de santé mentale, des problèmes d'atteinte à la vie privée, des problèmes de criminalité. Ça veut dire du monde qui se tape sa gueule, qui sont colocataires, qui sont plus capables de s'endurer. Puis là, c'est comment légalement tu gères ça. Alors là, je t'avoue que les multiples facettes de la crise du logement, ce matin, je trouvais que c'était la cerise sur le sundae, celle-là.
Ouais, en effet. Puis, je suis presque sans mots parce que t'imagines vivre avec quelqu'un et puis que t'aimes pas cette personne. Tu sais, ça va plus, mais t'as pas les moyens de partir, puis t'es pas capable de partir, puis tu sais pas comment partir.
Exactement. Qui peut-on forcer à partir? Qui peut rester? Etc., etc. Donc, c'est à suivre, mais je trouvais que ça bouclait la boucle de notre semaine sur la crise du logement, au sens où il y a un nombre de facettes incroyables à cette crise-là.
En cette veille de déménagement.
Ouais, tout à fait. En cette veille de 1er juillet, où ça sera pas drôle pour ben du monde. Mais là, tu m'avais demandé
un petit sujet plus léger. Oui, tout à fait, parce que c'est la fin de la semaine. Alors, pourquoi pas?
Oui, exactement. En fait, rapidement, deux choses. D'abord, il y a un auteur, je ne sais pas si tu le connais, François Blais, qui est décédé en mars. Moi, je ne le connaissais pas, donc mea culpa. Et là, je me suis rapidement dirigé à la librairie pour me faire conseiller. Et il y a 2 semaines, à mon retour de Chicago, et là, j'ai bien rigolé, j'ai acheté son premier roman qui s'appelle « Document 1 ».
Oui.
Je vous le dis tout de suite, c'est savoureux, c'est drôle, de l'autodérision. L'auteur, il fait le roman dans le roman. Ça me fait penser un peu à ce que Paul Auster a déjà fait. Et il parle d'un road trip, puis il cible des villes qui ont des noms bizarres aux États-Unis. Donc, ils font une espèce de topographie, lui et sa blonde, mais ils n'ont pas une scène, ils sont pas capables de les visiter, donc ils décident de faire une demande de subvention pour écrire un roman, puis ils se disent, avec ça, on va acheter un auto, puis tu vois le genre. Mais finalement, ils partent jamais. Mais sauf qu'ils écrivent le roman de leur road trip. Puis là, je me suis dit, quelle belle lecture à mon retour de Chicago, où j'ai décidé de faire différent des autres, c'est-à-dire que j'ai pas pris l'avion parce que je savais qu'à Pierre-Éliott Trudeau, c'était le bordel, puis que c'était le bordel pour trouver des bagages.
Oui, 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 oui. T'es allé comment?
Ah ben en voiture, okay. Avec mon gendre et ma fille.
Ah, c'est bon. C'est bon
que parce je que... remercie d'ailleurs parce que mon gendre a conduit les deux tiers de la route et ma fille a organisé le voyage de A à Z. Dans
donc les ville, hôtels, absolument. Les endroits, les spectacles à voir et tout, c'était tout fait, là. C'était tout réglé.
Exactement, et je la remercie doublement parce que qu'est-ce que je suis allé voir deux fois à Chicago? Du baseball.
Ah ah! Est-ce que c'est
au baseball?
Ben oui, est-ce que c'était des équipes que tu aimais? Est-ce que l'équipe adverse était une équipe que tu aimais?
Ben, disons qu'on est allé voir les White Sox le dimanche après-midi, puis on est allé voir les Cubs, le fameux Wrigley Field qui date de 1914. C'est vraiment une pièce admirable sur le plan de l'architecture. Donc, on s'est tapé deux games. Ma fille a été très patiente, d'ailleurs. La première, ça allait. La deuxième, ça commençait à être un peu long quand tu ne tripes pas sur le baseball. Puis imagine-toi que ça reste encore un sport extrêmement populaire aux États-Unis. Là.
Ah ben oui, les gens, oui, oui. Puis c'est rassembleur familial. Aussi. C'est
familial.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Et là, à la septième manche, ils chantent « Take me up to the ball game ». Oui, voilà. Mm. Et plus sérieusement, les restos, la plage à deux coins de rue de notre hôtel, mais la vraie plage, avec une mer intérieure, c'est le Michigan, c'est tellement immense que t'es étonné que l'eau soit pas salée, mais c'est un lac.
Ouais, ça, c'est comme le lac Ontario, hein, les grands lacs, là, c'est
exactement,
très impressionnant, t'as l'impression.
C'est des grands lacs. Et un super show de blues jazz le dernier soir, puis là, je le mentionne parce que c'est le festival de jazz qui commence aujourd'hui, je pense.
Oui, tout à fait.
Et on est allé voir Mike Stern, qui est un guitariste de 69 ans, qui jouait avec sa femme. Et là, ils nous ont dit, ça se peut qu'on soit au Festival de jazz de Montréal. Donc, j'ai pas regardé la programmation, mais c'était tout un spectacle avec, évidemment, une performance musicale dans un vieux club de jazz, le Showcase, qui date de 1947. Non, je te le dis, Marie-Claude, si t'as jamais mis les pieds à Chicago,
je vais y aller.
Vas-y. C'est vraiment une ville extraordinaire. Restauration, la ville, pas de cône orange.
Zéro cône orange?
Aucun.
Parce que leurs travaux sont finis ou quoi?
Ben, ça a l'air qu'ils ont continué à entretenir leur ville au fur et à mesure que la ville en avait besoin. En tout cas, pas de cône orange, propre, pas plus gros que Montréal, peut-être un 2,5 millions. Et vraiment agréable. Là, vraiment 5 étoiles. Extraordinaire. Donc, si les gens ont le goût d'aller... Tu sais, souvent, on pense à la côte Est, là. C'est 15 heures de route, mais il y a deux chauffeurs. Ou bien t'arrêtes à Cleveland ou Toronto pour dormir, ou bien tu fais ça d'une traite et tu t'amuses follement.
D'une traite, ça m'apparaît un peu long. Est-ce qu'il ventait beaucoup? Parce qu'on dit que c'est la ville des vents.
Il ventait, mais il faisait chaud. Il a fait du 40. 41, c'est pour ça le jury, parce que le deuxième match de baseball, il faisait excessivement chaud.
C'était un sauna.
Et là, on a essayé d'animer un peu la chose, mais bon, que veux-tu? Mais non, vraiment un voyage extraordinaire, je le recommande à tout le monde. Je recommande François Blais,
oui.
D'abord,
oui.
Pour les vacances.
Document 1, puis Iphigénie aussi, qui était très, très bon, c'était son premier, je pense.
Je viens de le terminer, Iphigénie, oui. En Haute-Ville.
Oui.
Et si vous avez le goût de faire un road trip, Chicago.
Excellent. Excellent. Merci beaucoup. Bon week-end, bon long week-end, Jacques. À lundi.
À lundi.
Salut.
Merci.
Salut, bye-bye. Oui, ben oui. La chanson de baseball qu'on aime tellement. Pour aller à la pause, parce qu'au retour de la pause, Geneviève Saint-Germain commence l'été avec nous. Elle sera là toutes les semaines, les jeudis. Elle va nous parler, comme à chaque semaine, d'un mauvais coup de la semaine et d'un bon coup de la semaine.